Alors, je vais peut-être commencer en attendant l'arrivée de Patrick Stéphanie. Alors, tout d'abord, c'est une petite présentation de ce qu'on fait. Donc, moi, je suis Philippe Opiron, donc doctorant à Paris 8. Et la recherche dont on va parler aujourd'hui, donc, se développe dans le cadre de ma thèse de doctorat, dont le directeur donc est Patrick Rayou. Et c'est une recherche qualitative en sciences de l'éducation au sein de deux structures scolaires innovantes d'Île-de-France, donc un micro-lycée et un internat d'excellence. Elle se déroule autour d'une problématique centrale qui est l'analyse de l'évolution de la forme scolaire. Donc, c'est-à-dire, selon la formule de Guy Vincent, de ce qui fait école. Je vais approfondir après cette notion. Donc, nous partons de l'étude de dispositifs scolaires dérogatoires. Donc, une petite précision sur les termes utilisés. Ce n'est pas forcément dérogatoire par rapport à la législation, donc aux lois, mais c'est plutôt dans le cadre de la loi d'orientation de 2005 et ensuite dans les dispositifs donc d'espoir banlieue. Ces structures scolaires ont une autonomie pédagogique, financière et de gestion plus importante, on va dire, par rapport à ce qui est la norme dans les autres établissements du système scolaire public. Notamment pour ce qui concerne le micro-lycée, quelque chose d'un peu quand même dérogatoire à la loi cette fois, et ce serait le fait de pouvoir sélectionner en interne les élèves et aussi de pouvoir gérer un budget, donc un portefeuille pour le fonctionnement donc interne. Donc, notre recherche est en cours. Donc, ce que nous allons exposer aujourd'hui sont plus des pistes de réflexion ayant émergé de nos premières analyses et observations plutôt que de résultats finaux. Donc, le double objectif de notre recherche est d'une part d'enrichir le débat scientifique autour des inégalités scolaires et aux processus au travers desquels elles peuvent se produire, et d'autre part d'offrir aux praticiens une visibilité sur ce qu'ils vivent dans leur travail quotidien, et pour pouvoir dans un deuxième temps construire avec eux des outils pouvant les armer donc professionnellement. Dans la visée donc d'une construction d'outils donc d'évaluation et d'auto-évaluation sur leur pratique, les effets de leur pratique. Notre recherche part de l'hypothèse selon laquelle les dispositifs scolaires observés ne représentent pas des exceptions, entre guillemets, à l'intérieur de notre système scolaire, mais qui sont plutôt des réponses institutionnelles suivant une logique de continuité socio-historique. Donc, pour cela, nous considérons ces structures comme des laboratoires où les situations et les pratiques scolaires observées font effet de loupe donc, sur l'évolution socio-historique et institutionnelle de l'école. Ainsi, nous essayons de saisir ces modalités les modalités de cette continuité, donc d'évolution, et les effets sur les trajectoires des acteurs scolaires, donc les élèves, mais aussi les enseignants, et sur leur mode de penser et d'agir. Notre travail, comme l'avait dit hier Patrick Cariou déjà, se base sur une approche principalement sociologique où, en contextualisant les situations et les pratiques observées, qui est notre analyseur de départ, On essaie par la suite de les décontextualiser en prenant comme référence donc des recherches antérieures en sociologie sur des objets similaires donc qui peuvent être comparés aux nôtres. Pour, dans un troisième temps, opérer une synthèse, donc une phase de recontextualisation, où nous essayons donc de donner des pistes donc théoriques nouvelles, donc sur ce que nous avons observé donc au cours de nos pratiques de terrain. Ce que je veux dire, c'est que nous ne considérons pas les situations, les pratiques observées ni comme des phénomènes singuliers, et ni comme la manifestation de quelque chose qui serait inéluctable, donc de mécanismes, donc de macromécanismes où voilà tout était déjà joué, où tout serait déjà joué à l'avance. Nous tentons en effet d'effectuer une analyse fine des modalités de relation entre le contexte micro, donc sur lequel nous travaillons, et le contexte macro, donc du système sociétal et historique, dans lesquels ces situations et pratiques observées sont insérées, sont situées. Donc, d'où notre intérêt sur les dispositifs que justement ces positions se situent entre ces deux contextes. Mais on va y revenir. Donc, pour ce qui concerne nos objectifs, nous avons distingué trois volets d'études. Donc, premièrement, un volet institutionnel, qui inclut, par exemple, les modalités de gestion des règles communes et de fonctionnement des dispositifs, les modalités de sélection et d'évaluation des élèves, les modalités de porosité des dispositifs scolaires à la société extérieure, et notamment à l'univers des jeunes et tout ce qui est donc la juvénilité, et la relation entre les activités scolaires et les activités périscolaires, et la gestion entre objectifs de socialisation et objectifs pédagogiques. Le deuxième volet est un volet pédagogique, donc sur les pratiques des personnels scolaires et des élèves à l'intérieur des situations observées. On y retrouve notamment les modalités de gestion et de mise en situation des curricula, des gestions entre travail de groupe et travail individuel, donc c'est les passages entre travail de groupe et travail individuel, et la perception des difficultés, des besoins et des spécificités des populations des élèves. En outre, les stratégies d'apprentissage et les difficultés de transmission et d'apprentissage des savoirs. Le dernier volet est un volet identitaire qui inclut les modalités de construction et d'inscription dans les espaces et dans les dispositifs scolaires et extrascolaires des différents acteurs. Plus précisément, pour ce qui concerne les professeurs, les processus de construction d'un genre professionnel, les points de vue sur leur école et sur les systèmes scolaires, et la perception des transformations du métier enseignant, donc les processus de professionnalisation du métier enseignant, et les modalités de relation entre les élèves et avec les élèves, avec les collègues. Pour ce qui concerne les élèves, le rapport au savoir, à l'autorité et à l'école, les processus d'inclusion, exclusion dans la forme scolaire, et les processus de construction des carrières scolaires. Ensuite, la médiation entre les exigences relevant de la vie des jeunes et celles relevant de la vie d'élèves. In fine, les variations scolaires et identitaires à partir de l'expérience vécue dans les dispositifs scolaires observés. Un dernier point sur la méthodologie. Donc, on est sur ce micro-lycée depuis 2 ans et sur l'internat d'excellence depuis seulement quelques mois. Donc, forcément, le matériel n'a pas le même rapport au niveau quantitatif. Nous adoptons une méthodologie un peu mixte, en alternant des temps synchroniques, donc d'observation directe, et des temps diachroniques dans la visée d'un suivi des cohortes d'élèves, et aussi des données quantitatives, puisque le nombre d'élèves enquêtés commence à devenir important. Donc, en effectuant une catégorisation socio-professionnelle et territoriale des familles d'élèves, et aussi en suivant les parcours scolaires et sociaux des élèves, donc avant l'entrée dans les dispositifs, pendant leur vie dans les dispositifs, et aussi leur trajectoire, donc à la suite de leurs expériences, et surtout de données quand même qualitatives qui se base sur des observations de classe, des enregistrements vidéo de cours et des entretiens semi-dirigés avec donc les acteurs, donc enseignants, élèves, mais aussi les autres personnels qui travaillent dans ces dispositifs. Donc pour ce qui concerne notre intervention d'aujourd'hui, je parlerai d'abord de la notion de forme scolaire, donc et de son évolution. Dans un deuxième temps, Patrick Rayou proposera des réflexions autour de la notion de porosité de la forme scolaire et sur les différentes logiques socio-historiques sous-jacentes à son évolution. Et par la suite, donc nous présenterons certains des premiers résultats ou plutôt pistes de réflexion ayant émergé de nos observations donc au sein de ces deux structures. Enfin, nous proposerons des interrogations conclusives pour alimenter les échanges qui suivront notre intervention, donc on l'espère, en soulevant notamment des questions sur les enjeux relatifs à l'essaimage de ce type de dispositifs. Pour ce, donc, je vais quand même introduire la notion de forme scolaire. Elle se réfère à un ouvrage de Guy Vincent de 1980, donc l'école primaire française, où l'auteur la définit comme ce qu'ont des communs les enseignements au sens large, primaire et secondaire, autrement dit l'école comme telle. Vincent, en fait, démontre comment, depuis la naissance des écoles lassalliennes à la fin du XVIIe siècle, a émergé une nouvelle configuration, c'est-à-dire, selon la formule de Norbert Elias, une nouvelle forme spécifique d'interdépendance entre individus, comme par exemple ce qui pourrait être l'Église ou l'État, donc de la même manière. Donc, c'est une configuration donc, qui perdure à travers les siècles. Pour défendre cette thèse, donc, le sociologue rappelle d'abord les éléments de rupture avec les précédentes formes pédagogiques françaises, notamment la figure de l'enseignant, le fait que la figure de l'enseignant laïque était préférée à celle de l'éducateur pédagogue, autrefois représenté par les jeux. Le fait aussi que le public visé était pour la première fois constitué principalement par des enfants citadins provenant des situations de misère sociale. Et donc, les objectifs visés étaient davantage politiques, éduquer la moralité, que didactiques, transmettre un savoir-faire. Pour la première fois, donc, apprendre était distinct de faire. Ensuite, il repère et définit les éléments constitutifs donc, de cette forme scolaire, un fonctionnement basé sur des apprentissages progressifs et longs, et sur des routines basées sur les rituels de classe. Donc ces modalités d'action, donc un enseignement synchronique dans une classe, donc l'enseignant devant une communauté d'élèves. Et enfin, on va dire sa fonction idéologique, politique et morale, donc travailler vraiment sur les aspects sur les corps, sur les gestes, sur l'intellect et le mode de pensée des élèves. Or, bien que la forme scolaire ne puisse pas être considérée seulement comme, on va dire, quelque chose qui reflète l'évolution de l'idéologie capitaliste de nos sociétés occidentales, ni comme seulement comme un appareil de contrôle sur l'individu, il n'en demeure pas moins qu'il existe des corrélations historiques réciproques avec les autres configurations qui sont perméables les unes aux autres. La forme scolaire n'est ni éternelle ni universelle, car son existence relève de son évolution socio-historique. Nous avons adopté pour cela un schéma emprunté à des théories d'Elsie Rockwell, où elle distingue des trois contextes analytiques de la forme scolaire, donc pour analyser l'évolution de la forme scolaire, la longue durée, la continuité relative et la construction au quotidien. Dans notre recherche, nous focalisons surtout sur ce troisième contexte analytique, puisqu'on estime qu'on vit quand même dans une époque où chaque établissement scolaire ou chaque ensemble établissement scolaire est inséré dans un territoire spécifique et donc a tendance à se saisir comme une sorte de monde à part. Donc un monde à part, donc une école qui reproduit et modifie à la fois quotidiennement la forme scolaire. Avant de laisser la parole à Patrick Rayou, j'esquisserai quelques aspects étant liés aux récentes prises en compte institutionnelles de la forme scolaire. Notamment, je veux souligner le fait qu'au cours du temps, les modes de socialisation scolaire et les modes de socialisation extrascolaire autrefois étant davantage séparés, ont au cours de décennies donc eu suivi un processus de migration donc réciproque des éléments. Ce qui a changé, on va dire, et fragilisé la forme scolaire, qui a accepté et intégré à son intérieur l'hétérogénéité donc dérivant de la relevant donc de la société extérieure. Donc je ne vais pas me prolonger davantage parce que je suis déjà hors les temps. Je vais laisser la parole donc à Patrick Rayou.
Merci Philippot. Alors, oui, nous parlons dans ce terme un peu barbare de porosité de la forme scolaire, ce qui fait à la fois beaucoup de notions et un peu exotiques. L'idée de porosité, elle veut essayer d'expliquer le sentiment contemporain qu'éprouvent beaucoup d'acteurs de l'école, de voir l'école envahie parce qu'il n'est pas elle. Voilà, alors ils ont raison, ils ont tort, on peut apporter quelques arguments. En tout cas, par rapport à... il faudra avoir présent à l'esprit le tableau, un tableau antérieur. Au niveau de ce que Elsie Rockwell, que vous aurez dans la bibliographie, appelle la continuité relative, il y a quelque chose qu'on s'accorde en général à appeler école républicaine. Alors l'école républicaine n'est pas toute l'école, elle est sans doute un moment de l'école, un moment important, qui a duré au moins 2 siècles. Hein, et dans notre idée, mais nous ne sommes pas les seuls, je crois, et consiste à dire qu'elle arrive à une certaine obsolescence, hein, que nous sommes à un moment où, sans renoncer à la forme scolaire en général, nous avons à penser les évolutions de la forme scolaire, sans doute pour entrer dans une autre conjoncture. Alors nous sommes dans ce moment à la fois tout à fait déstabilisant mais excitant, dans lequel ces choses-là sont en train de se refabriquer. Voilà pourquoi ces dispositifs dérogatoires nous paraissent particulièrement intéressants. Donc l'idée, c'est que... la forme scolaire républicaine française, elle s'est caractérisée sans doute par rapport à d'autres écoles par une forme d'étanchéité qu'elle a essayé de mettre entre le reste de la société elle-même. Alors, pour des objectifs qui ont été directement ou ouvertement politiques, hein, que les historiens de l'éducation nous expliquent, au sens où on voulait éviter des restaurations politiques, tout simplement, hein, où il a fallu fabriquer des types de citoyens différents qui sortaient de l'école avec un viatique insuffisamment robuste pour échapper aux communautés, aux influences locales, etc., etc. Donc ça a façonné une école très particulière qui est la nôtre, dont nous sommes des héritiers. Mais comme en même temps cette école-là a connu un succès considérable qui n'est pas démenti, les travaux du CEREC sur l'importance des qualifications dans la prise d'emploi ne sont pas pour démentir cette affaire-là. De manière un peu paradoxale, le succès de l'école vers l'extérieur, hein, alors il faudrait se rappeler les époques où il fallait chercher les gamins dans les champs, dans des endroits où ils travaillaient pour les amener à l'école, ça a pris du temps. Hein, ça n'a pas été aussi rapide que ce qu'on imagine parfois. Le rapport est aujourd'hui l'inverse, c'est-à-dire que la forme scolaire a envahi l'école. Hein. Nous sommes un pays dans lequel on peut faire des dictées à la télévision, jouer aux chiffres et aux lettres, faire question pour un champion. Il y a une espèce de pédagogisation de l'ensemble de la société dans laquelle on voit qu'il y a une espèce de copier-coller de la forme scolaire et de celle-ci sur l'ensemble du social. Ceci et ce succès a évidemment un prix, c'est que ce qui sort d'un côté, d'une certaine manière, va rentrer dans l'autre. Hein. Et lorsque nous voyons des jeunes enseignants dire à quoi ça sert que j'ai passé l'agrégation si c'est pour enlever les MP3 des écouteurs de la tête des élèves. Il y a là quelque chose qui peut paraître tout à fait scandaleux, mais qui l'est certainement eu égard aux objectifs académiques poursuivis par la formation et cet enseignant, mais qui néanmoins signe d'une certaine manière le succès de l'école, puisque elle a organisé des passages plus importants que jamais entre elle-même et la société. Alors, ça n'est pas propre qu'à l'école française. Un monde dans lequel Harry Potter va à l'école des magiciens est un monde dans lequel on voit, je crois, le succès de l'école. Même la magie, ça prend à l'école, évidemment, dans les romans. Mais les romans sont quand même un reflet intéressant du réel. Dire qu'il y a porosité, ça veut dire que des espaces qui étaient relativement fermés, hein, sanctuarisés, comme on le dit parfois, des temps qui étaient spécifiques, sont aujourd'hui, encore une fois, travaillés. Hein, mais c'est aussi les modes d'apprendre, des socialisations. On dit que la socialisation juvénile est entrée dans l'école, etc. Alors, je ne voudrais pas trop développer sur cette notion de porosité, mais qui me paraîtrait impropre de prendre comme simplement le fait que c'est l'extérieur qui rentre dans l'intérieur. Il faut bien voir que la socialisation juvénile, en particulier aujourd'hui, elle se fabrique aussi largement à l'école, et que donc il y a une espèce de passage incessant de l'un à l'autre, et que les modalités de communication actuelles des jeunes les mettent dans un va-et-vient incessant entre le dedans et le dehors. Ils poursuivent à l'extérieur des conversations et des liens tissés à l'intérieur et réciproquement. Donc ça, je crois que c'est une caractéristique importante de la situation. Par rapport à cette porosité dont on peut se lamenter ou se réjouir, il nous semble qu'il y a trois attitudes fondamentales. Alors évidemment, ceci va être caricatural, comme à chaque fois qu'on essaie de faire des typologies, qui peuvent être des tentatives de restauration, des tentatives de rupture ou des tentatives de dérogation. C'est évidemment la troisième qui nous intéresse à travers les dispositifs que nous regardons. Il y a un bouquin de Robert Ballion au début des années 90 qui s'appelait « Le lycée, une cité à construire », qui a été un livre qui ouvrait une nouvelle période, je pense, du point de vue de la sociologie de l'éducation, parce qu'il nous montrait des établissements, des lycées, jadis bons lycées, ou ce qu'il convient d'appeler bons lycées, qui se mettaient à être atteints par des catégories d'élèves qui n'y étaient jamais entrés auparavant, dont les parents eux-mêmes n'y étaient jamais entrés, et dont on voyait bien qu'ils commençaient à modifier de manière assez forte hein, les types d'accords, de règlements, de manière de fonctionner qui existaient. Et Ballion nous montrait le premier réflexe de ces lycées, c'était d'abord de refaire de la clôture. De faire la clôture, à la fois au sens symbolique, mais aussi au sens physique. Hein. On a refait des barrières, des murs, voire des portillons plus ou moins électroniques, qui a été ce réflexe, hein, qui a consisté à essayer de protéger hein, les choses. Voilà. Alors d'autres tentatives, moi, que j'appelle un peu restaurationnistes, si vous voulez, consistent à dire qu'il faudrait revenir aux uniformes, il faudrait revenir à des modes de règlement extrêmement prescriptifs, etc. Voilà. Moi, je dis parfois, l'uniforme, les lycéens l'ont déjà inventé eux-mêmes. Donc vous arrivez trop tard. Ils ont des manières de faire qui font qu'on ne distingue pas trop de choses. Donc c'est vraiment pas la peine. Mais cette espèce de mon point de vue, de fantasme existe. Comme si les formes, en tout cas en termes de durée moyenne, qui ont existé à un moment donné, étaient faites pour être périmées. Et comme si les époques auxquelles elles ont correspondu pouvaient à nouveau apparaître. Je crois que c'est une forme de déni quand même d'un mouvement historique. Les tentatives de rupture, alors elles sont sans doute plus minoritaires, je ne sais pas, mais il y a déjà eu, hein, à l'époque d'Ivan Illich, hein, faut-il brûler l'école, etc. C'est-à-dire ces tentatives de dire cette école-là, elle est morte, elle est désuète, il faut vraiment faire autre chose sur le mode de la rupture. Alors ça peut aller jusqu'au chèque éducation, hein, c'est-à-dire où l'école disparaît comme institution en tant que telle, et on remet aux parents un certain pouvoir d'achat qui leur permettrait d'être consommateurs sur un marché de type de formation, mais qui ne passerait pas nécessairement par la forme scolaire accréditée et la républicaine en ce qui nous concerne. L'idée qu'il y aurait une forme d'innovation permanente, hein, soumise aux demandes et aux besoins des acteurs. La troisième catégorie, ce sont ces tentatives de dérogation, mais de dérogation au sein de l'institution, hein, avec l'idée que cette institution est frappée de plein fouet, notamment par l'hétérogénéité des publics d'élèves, qui ont rebattu la donne de façon considérable, et que c'est à ce niveau qu'il faut travailler. Et voilà donc ce qui nous guide dans notre analyse de ces dispositifs. Ce tableau a pour modeste ambition d'essayer de voir, en se recalant sur la, la typologie longue durée, continuité relative et co-construction quotidienne qu'a présenté Philippot de manière rapide, mais néanmoins, je crois, pertinente, et de le croiser avec ces trois tentatives. Pour dire les choses de manière simple, dans les tentatives de restauration, il nous semble qu'on accorde un privilège tout à fait important aux couches les plus anciennes de l'école. Et d'ailleurs, en confondant la continuité relative et la longue durée, c'est-à-dire qu'on fait comme si l'école républicaine avait été la seule forme scolaire existante, les historiens ont montré, par exemple, la République a eu tout à fait intérêt à nous faire croire que c'est l'école républicaine qui a écrit, qui a appris les enfants à lire. On n'a pas attendu l'école républicaine pour ça. D'une certaine manière, elle vient achever un processus qui était déjà continué. Mais ça fait partie de la mise en présentation, de la présentation politique et idéologique que tout système a tendance à faire vis-à-vis de son école. Du point de vue de la recherche, ça nous paraît intéressant de distinguer, parce que c'est pas du tout la même chose. Et si l'on se laisse piéger, je dirais, par ces amalgames historiques, on n'est pas très bien pour appréhender ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc, l'optique de restauration, on a tendance à fusionner la grande couche et la moyenne et à déprécier la nouvelle comme si elle n'était que parasitaire, hein, par rapport à ce qui existait, et des tentatives de fuite en avant pour faire arriver autre chose. À l'inverse, dans l'optique rupturaliste, on va déprécier ce qui a existé, croire qu'on peut inventer aujourd'hui dans la co-construction au quotidien des modalités. On se rend compte que souvent on réinvente les mêmes choses, hein. On l'entend bien ici. Hein. Hier, Laurent disait, enfin, les choses qui sont passées dans le secteur informel, peut-être que si on le savait et qu'on intériorisait mieux dans les dispositifs innovants, on gagnerait du temps, etc. Je crois que là, ce schéma permet d'essayer de faire le point là-dessus. Le dernier, donc, il nous semble que lui a une vision, bon, qu'on peut qualifier de plus dialectique, parce qu'à la fois, il s'agit de préserver la forme scolaire en tant que telle, forme scolaire qui remonte à très loin, plus loin que les écoles lassaliennes. Hein. Il y a des tablettes sumériennes qui nous montrent des enfants faisant leurs devoirs du soir, hein, où on leur dit « si tu ne fais pas tes devoirs, le maître va te donner des coups de canne », etc. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus les coups de canne, mais il y a toujours les devoirs. Et on voit bien que cette pratique du travail après la classe, elle remonte à des millénaires. Hein. Il y a une contextualisation. Nous sommes des héritiers de l'école républicaine, et il y a sans doute des principes qui valent la peine d'être réinvesti, mais nous sommes sensibles aux formes émergentes, hein, avec l'idée qu'il faudrait essayer de les institutionnaliser, de réfléchir à ce que signifie cette institutionnalisation, parce que le propre de cette dialectique, c'est qu'on peut imaginer qu'un jour, de la même manière que l'école républicaine a été une forme émergente et est devenue une forme stabilisée, les formes qui sont en train d'apparaître aujourd'hui dans ces dispositifs dérogatoires en particulier, d'où la question des faits de loupe, hein, et je crois que c'est la manière à nous faire mieux comprendre l'intention de notre recherche, c'est l'idée d'essayer d'être les témoins de ce qui se passe. Et le grand intérêt des micro-lycées ou des internats d'excellence, c'est que ça n'est pas des activités de franc-tireur quelque part et qui sont jamais capitalisées, mais qui nous présentent la possibilité d'être capitalisées et, on le suppose, réinvesties pour la suite. Je garde un peu de temps parce que je serai un peu plus long tout à l'heure. Donc les micro-lycées et les internats d'excellence nous paraissent des terrains, je dirais, d'observation et d'enquête pour ce schéma que nous vous avons présenté.
Oui, voilà. Donc, je vais rapidement présenter le micro-lycée dans lequel nous sommes depuis 2 ans. Il s'agit donc d'une structure qui est née dans le cadre du projet régional donc d'Île-de-France Réussite pour tous en 2000 et successivement dans la loi d'orientation 2005, donc dont j'ai parlé tout à l'heure. La spécificité du micro-lycée, c'est le fait d'avoir un double objectif qui est aussi affiché en tête de la charte des micro-lycées signée par les équipes des trois micro-lycées existants et de l'académie dans laquelle ils se situent, d'aider les élèves de 16 à 25 ans ayant abandonné le système scolaire pendant au moins un an à obtenir leur bac, et de réaliser ou de réaliser leur projet personnel, donc pédagogique ou professionnel. Les moyens mis en place pour atteindre ces objectifs mettent eux aussi en évidence donc un caractère d'autonomie qui est reconnu institutionnellement. Je vais souligner quand même quelques aspects. Dans ces micro-lycées, il y a cette année 10 professeurs pour environ 80 élèves. Lors de la première année de son existence, donc il y avait toujours 10 professeurs, mais seulement pour 40 élèves. Il y a donc, comme j'ai dit, un recrutement interne des élèves et des professeurs. Et un fonctionnement scolaire donc centré sur les parcours individuels de chaque élève. Un fonctionnement aussi voué à l'innovation en pédagogie et à l'expérimentation. Donc il nous semble quand même que ce type de structure s'inscrivent dans une logique donc évolutive de la forme scolaire. Qui est centré depuis un moment sur des politiques éducatives territorialisées, voulant s'adapter donc au public scolaire visé. Il s'agit aussi, il nous semble, d'une réponse institutionnelle aux exigences sociales récentes de remédiation donc des inégalités scolaires, notamment concernant les phénomènes d'échec scolaire donc et de décrochage scolaire. La caractéristique donc qu'on veut un peu mettre en avant aujourd'hui, c'est le fait que le mode de fonctionnement du micro-lycée semble ni internaliser ni externaliser donc la forme scolaire, mais il essaye de créer du mou donc dans la forme scolaire par des processus de réajustement quotidien de ces boîtes noires, donc c'est-à-dire les dispositifs qui servent au fonctionnement de la structure. Le fait que il n'y a donc justement on n'essaie pas de ni d'internaliser donc de clôturer l'école ni non plus donc de transférer l'école en dehors du territoire résulte, à notre avis, d'un processus de négociation, de co-construction de ce que nous avons appelé, en empruntant la notion à Laurence Rouleau-Berger, de la construction d'espaces intermédiaires à l'école. Donc pour Laurence Rouleau-Berger, donc les espaces intermédiaires sont des espaces de récomposition sociale, donc où des acteurs qui ont une position sociale, hiérarchiquement sociale plus légitime, reprennent des projets, donc des espaces précédemment construits par des acteurs qui ont un statut de précarité sociale pour travailler avec eux dans une sorte de contexte mixte où donc ces deux genres de population puissent travailler un projet commun où il y ait une double reconnaissance des acteurs donc qui étaient des acteurs moins entre guillemets légitimes reconnaissent la une légitimité de un savoir-faire à ces acteurs plus savants et de l'autre côté ces acteurs reconnaissent donc des capacités personnelles et individuelles de pouvoir créer un projet et donc construire un projet. Pour ce qui concerne donc la transposition de cette notion à l'école, nous la définissons donc comme le résultat de processus de médiation entre les exigences et les compétences d'une partie des acteurs scolaires, enseignants, élèves, agissant à la fois à l'intérieur et aux marges de la forme scolaire, chacun important à l'école des modes hétérogènes de socialisation et des professionnalisations acquis lors d'expériences sociales intérieures. Un exemple peut-être qui nous a paru vraiment parlant pour ce qui concerne donc ces espaces intermédiaires à l'école, c'est la salle commune. Donc la salle commune étant vraiment le cœur de cette structure. Il s'agit d'une salle où prof et élève passent obligatoirement, enfin obligatoirement, oui, pour pouvoir après accéder aux activités, donc aux cours tous les jours, où il y a donc une coprésence donc d'élèves et professeurs et aussi une modalité des modalités d'investissement de ces lieux très variés. C'est un espace de convivialité d'abord, puisque il y a aussi donc un frigo avec la machine à café mise à disposition à tout le monde, aussi un espace de raccrochage scolaire, puisque les élèves vont se concerter avec les professeurs pour les questionner sur des questionnements scolaires, donc sur ceux qui n'ont pas très bien compris, ou aussi par exemple les professeurs recueillent avant de les amener dans la classe et échauffent entre guillemets les élèves sur ce qu'ils vont écouter, donc sur ce sur quoi ils vont aller travailler dans la classe. C'est aussi un lieu administratif, puisque il y a eu le besoin donc de passer en gros quand on veut au micro-lycée, mais dès qu'on passe, les élèves doivent s'inscrire dans ce qu'ils ont appelé le cahier du bonjour. Donc, qui est quelque chose d'un peu d'entre deux, entre un cahier administratif et quelque chose de moins formel. Et aussi, enfin, un lieu où d'internalisation du travail scolaire, donc la quasi-absence de devoirs à faire à la maison est peut-être... remédier par cet espace où les élèves, s'ils veulent, peuvent rester à la fin des cours, donc pour travailler en autonomie ou avec d'autres collègues, mais aussi en pouvant s'appuyer du passage régulier des professeurs, donc en les arrêtant et en relançant donc le travail fait en classe. Une autre particularité de ce micro-lycée, c'est qu'il nous a semblé qu'il met en évidence une structure où les acteurs, élèves et professeurs peuvent se débloquer. Dans le sens où, pour les professeurs, on a constaté pendant les entretiens avec eux, qu'il s'agit pour la plupart de professeurs volontaires qui ont en quelque sorte été bloqués dans leurs élans d'innovation dans la forme scolaire classique, donc dans leurs expériences antérieures, et où ils peuvent développer justement leurs compétences, cette hétérogénéité dans leurs compétences, dans cette structure. Du côté des élèves, un déblocage aussi, puisque la quasi-totalité des élèves tendent à souligner le fait que tendent à imputer leurs échecs scolaires antérieurs au fait que par des circonstances donc de vie ou scolaires qui les ont empêchés, qui les ont bloqués, qui les ont ralentis donc de grandir et donc de réussir à l'école. Il y a là donc une perception des élèves comme élèves décrocheurs. C'est la première chose qui nous disent en se présentant. Nous, on est tous des décrocheurs, en fait, qui avons échoué à l'école pour de telles et telles raisons, donc circonstances, notamment par des processus de disqualification identitaire qu'ils ont vécu intérieurement. Donc, cette co-construction donc d'espace intermédiaire ne se traduit pas toujours en une stabilisation de la forme scolaire. dans le sens où les processus de négociation pour beaucoup de ces espaces intermédiaires doivent se poursuivre au quotidien, donc au jour par jour, en suivant aussi les cas d'accidents qui peuvent se produire dans l'établissement. Et donc il y a pour stabiliser justement ces espaces intermédiaires le besoin de créer des dispositifs scolaires stables. Les dispositifs donc sont, selon la définition de Foucault, un ensemble donc de hétérogènes qui inclut des discours, les institutions, des décisions, des règlements, des lois, des mesures administratives. Donc, en bref, du dit aussi bien que du non-dit. Donc, il s'agit en fait d'une sorte de cristallisation donc de processus donc d'innovation et de production d'espaces intermédiaires. Un exemple de stabilisation réussie donc de dispositifs est par exemple concerne le règlement interne. Donc il a fallu toute une année scolaire pour pouvoir au niveau hebdomadaire se mettre d'accord entre élèves et professeurs pour ce qu'allait être donc le règlement interne. C'était très, très intéressant les modalités de cette construction, puisque les élèves et les enseignants collectionnaient en fait une sorte de cahier de doléances où au fur et à mesure on allait rajouter ce qui n'allait pas, ce qu'il aurait fallu faire, et de façon démocratique, de la façon de la démocratie participante. Donc on t'a établi et enfin au cours de la deuxième année affiché enfin au mur c'est le règlement interne signé par la totalité donc de la population. J'ai dans ce schéma donc j'ai essayé un peu de schématiser le parcours de la population du micro-lycée, donc qui passe par une phase de décrochage, très très souvent considérée par eux-mêmes comme une phase obligatoire leur permettant de raccrocher la forme scolaire. Donc ils reconnaissent dans cette phase de décrochage un bénéfice. Donc le passage dans les micro-lycées permet de remédier à leur problème de disqualification identitaire. Donc ça, on a pu le constater pour la quasi-totalité de la population. Ça marche très très bien. Donc cette façon de faire est très, très horizontale, très conviviale et d'échange entre professeurs et élèves. Aussi l'absence de sanctions, la non-obligatorité de venir au cours, etc. Ça a permis donc à ces élèves de raccrocher dans un premier temps avec l'école. Sauf que à la suite de cette phase, on a pu distinguer deux populations, donc une bifurcation dans la population des élèves. Une grande partie n'a pas pu continuer donc dans ces processus de raccrochage, puisque elle s'est rendu compte que derrière cette convivialité, cette horizontalité des rapports, il y avait implicitement des exigences d'autonomie, donc puisque s'il y a absence de normes et de sanctions, et ben l'individu doit s'autoréguler, donc l'autocontrainte. Et aussi, ils se sont rendus compte que sans ces facteurs d'assiduité et ces facteurs de temporalité longue nécessaires pour les apprentissages, cette école s'est réduite pour la plupart d'eux à une école à la carte où ils venaient, ils prenaient ce qu'ils voulaient, mais ils n'arrivaient pas donc à réussir scolairement. Ce qui entraînait donc enfin une non-adhésion donc à ces objectifs et un nouveau décrochage, et pour la plupart d'entre eux un décrochage définitif. donc de la forme scolaire. Pour conclure rapidement, il y a eu des difficultés aussi du côté des équipes éducatives qui ont dû donc porter sur qui portent toujours sur leurs épaules donc le fonctionnement et la création de ces espaces intermédiaires. Et donc à la fin de deux premières années de fonctionnement, l'équipe éducative, le 70% de l'équipe éducative repartait donc réintégrer la forme scolaire classique. Donc, puisque au bout d'une première période où, comme les élèves, donc il y a eu un raccrochage par le professeur à cette structure qu'il a trouvé très très enrichissante et passionnante, etc., où ils pouvaient exprimer leurs compétences multiples. Le jonglage difficile entre les spécificités de chaque élève, l'objectif du socle commun, parce que quand même l'objectif est du bac, et le poids donc d'un fonctionnement qui reposait sur leurs épaules, ça les a amenés quand même à réintégrer une forme scolaire classique. Voilà, donc je vais laisser la parole à Patrick Rayou pour la conclusion.
Non, pas tout
pour,
de suite.
Pour les internats d'excellence et ensuite la conclusion.
Oui, comment sont les jeunes? Ils veulent déjà se débarrasser des vieux. Donc, les internats d'excellence avec... vous voyez que la photo de Barcelonnette a du succès. Les internats d'excellence avec, évidemment, le peu de recul que nous avons et donc toute la demande de clémence, la part du jury, pour les choses assez superficielles que je vais dire. Le point de vue que je vais adopter est le point de vue, je vais dire, positif, délibérément, issu des discours nombreux que nous avons prélevés chez des élèves de l'internat dans lequel nous travaillons et du collège de cet internat. Je vais surtout parler là des élèves adhésifs, étant entendu que par démarcation, on peut imaginer ce que disent des élèves non adhésifs. Voilà. Alors, que sont ces trois jolis ballons? On vous épargnera rien, vous avez eu droit à Vincent, Rockwell, Leroux-Berger, Foucault, Rouleau-Berger, pardon. J'emprunte à Michael Walzer, qui est un philosophe politique américain, son idée de sphère de justice, dont je trouve qu'elle est assez bien adaptée au monde lycéen en particulier. Alors, je ne refais pas la théorie générale de Walzer, mais en gros, son idée, c'est que les modèles de justice contemporains ne peuvent plus être des modèles de justice uniques auxquels on a pu croire dans les périodes précédentes, et qui voulaient que, par exemple, on occupe le pouvoir politique pour, à partir de là, opérer une justice distributive, voire réparatrice aussi, c'est-à-dire à partir d'un pôle unique, essayer de rendre la justice à la société. Walzer nous dit il y a eu des tentatives de ce genre-là dans la période relativement récente et qui n'ont pas été merveilleuses, ne serait-ce que parce que même si quelqu'un occupe la sphère du pouvoir pour tout redistribuer, il va y avoir une lutte pour savoir qui va occuper la sphère du pouvoir, et on rentre dans des phénomènes d'injustice qui peuvent être pires que ceux qu'on avait cru conjurer. Voilà. Donc l'idée de Walzer est que il doit y avoir au fond un équilibre des différentes sphères du social. Alors je ne rentre pas dans la définition parce qu'on y passerait la journée, mais que le fait d'avoir du pouvoir, du prestige dans une des sphères de la société ne doit pas être un élément pour en occuper dans d'autres. Imaginons par exemple l'hypothèse tout à fait invraisemblable selon laquelle quelqu'un occuperait une haute fonction politique, en même temps serait doté de beaucoup de richesses économiques et aurait un empire de presse, aurait l'un parce qu'il a l'autre. Il y aurait là, nous dit Walzer, quelque chose qui pourrait être dénoncé en termes d'injustice, parce que loin de s'équilibrer, les sphères au contraire permettraient de capitaliser encore plus de pouvoir dans la société. Je crois que les lycéens, alors ça remonte à des travaux que j'ai fait auparavant, sont beaucoup dans ce modèle-là, où ils ne sont pas des contestataires effrénés de l'ordre scolaire et de l'institution, mais où ils essaient de faire en sorte que rien ne l'emporte vraiment sur l'autre, et que leur monde, je crois, assez fortement organisé autour de l'équilibre de l'institution scolaire, dans laquelle on va de toute façon ne pas nous payer, même les décrocheurs essaient de raccrocher, entre la famille, qui est une institution légitime, dans laquelle on reste assez longtemps, vous l'avez peut-être remarqué, si vous avez des grands-enfants, et le monde des pères, qui est aussi une sphère d'équilibre absolument fondamentale pour ces jeunes, qui d'ailleurs les introduisent très largement dans l'institution scolaire, et d'autant plus longtemps aujourd'hui qu'ils sont longuement scolarisés, et ils essaient de tenir un peu tout ça ensemble. Mais comme par hasard, me semble-t-il, les internats d'excellence obligent à une négociation entre ces trois sphères, et vont construire un accord entre les trois sphères. Est-ce qu'on crois commencer à comprendre, c'est que les élèves qui sont dans la disposition la plus positive vis-à-vis de cette institution sont ceux qui ont l'impression et qui nous disent, alors évidemment, ils n'ont pas eu Walter, hein, c'est nous qui essayons d'interpréter avec ça, c'est l'intérêt des modèles et aussi leurs limites, ils nous disent que finalement, ça s'est pas mal passé dans la façon de régler tout ça. Alors on va prendre les trois points de vue, si vous voulez bien. Du point de vue, là j'ai dit du collège d'origine, mais il faudrait dire de l'établissement d'origine, il se trouve que c'est parce que nous c'est un collège. Ce qu'il nous montre, c'est que l'établissement a su... voilà, on sent qu'il y a eu du tact de la part notamment des directions de l'établissement d'origine, où on a repéré des élèves, mais en même temps on a évité de les mettre trop en évidence par rapport aux autres. Ce qui serait pour les élèves un déni de fraternité avec leur père, hein, puisque une des règles d'or des adolescents d'aujourd'hui scolarisés, c'est surtout ne pas dépasser les autres, hein, de manière ostentatoire. C'est, bon, selon les métaphores qui ont été utilisées parfois, hein, rouler en peloton, etc. Ne pas se distinguer de manière trop évidente. Bon, ça se voit lorsque je parlais d'uniforme tout à l'heure, à mon avis, c'est un des aspects de cette chose. Hein. Or, précisément, les établissements agissent discrètement. On convoque, on invite, on met à part, on instaure un dialogue, mais de manière un peu feutrée. Il y a... on repère sans imposer. Les élèves ont du temps pour réfléchir. On parle avec leur famille. On leur demande de faire une tête de motivation. Ça donne lieu souvent à avoir des élaborations assez riches. Hein. Et on passe aussi par des médiateurs. Nous avons vu apparaître dans le discours des élèves des assistants sociaux, des conseillers principaux d'éducation, tel ou tel professeur qui connaît davantage l'élève. Voilà, des personnages qui ne sont pas simplement le chef d'établissement, mais qui ont eu délégation de sa part, hein, pour essayer d'aider à construire un accord qui soit un accord et qui débouche sur une lettre de motivation dont on voit qu'elle a valeur à la fois de construction du projet, mais en même temps d'engagement. Et beaucoup d'élèves nous apparaissent avoir été fiers, hein, de rédiger cette lettre. Ils ne nous donnent pas ça comme une sorte d'exercice de figure imposée. Du côté des familles... Nous n'avons pas pour l'instant enquêté auprès des familles, nous envisageons de le faire plus tard, mais toujours à partir du discours des élèves, nous avons le sentiment d'une immense fierté. Hein, les propos de Françoise Lorcery hier, je crois, sont totalement convergents avec ça. Des élèves nous disent « Mes parents, ils n'arrêtent pas de dire à la famille que je suis dans l'excellence. » Ils téléphonent en Afrique, ils téléphonent dans le monde entier pour dire « Mon fils, ma fille, il a été pris dans l'excellence. Hein, » bon, peut-être tout le halo d'incertitude et de mystère qu'il y a, et d'incompréhension de ce que ça signifie. Nous avons du mal même à savoir ce que c'est, donc on imagine que les familles ne savent pas forcément ce qu'est l'excellence. Néanmoins, l'effet symbolique et l'effet de qualification, voire de requalification symbolique, je reviendrai sur cette notion tout à l'heure, hein, et je remercie Dominique Glassman d'avoir beaucoup développé cette notion dans son travail, est tout à fait évident. Il y a une fierté dont on voit aussi qu'elle est une occasion de rapprochement entre ces élèves et leurs familles. Nous avons trouvé là des adolescents qui se sentent bien dans leur famille, partagent un projet commun, et au fond, le prix de la séparation, qui est quand même lourd pour beaucoup d'entre eux, surtout quand ils sont jeunes, paraît largement payé par celui d'une sorte de recomposition familiale autour d'un projet qui fait sortir la famille, hein, de formes de précarisation et d'infériorisation sociale qui sont en général leur lot. Oui, il y a l'idée aussi que ces familles-là, semble-t-il, délèguent à l'établissement d'accueil le fait que c'est leur nouvelle famille. Ce qui d'ailleurs peut entraîner des tensions, puisque les établissements voudraient bien que les familles jouent leur rôle, mais c'est pas du tout apparemment dans leur horizon. Hein. Elles font confiance, comme le font d'ailleurs classiquement les classes populaires, hein, quand l'école marche bien, on fait confiance, on se mêle pas, on va pas dire aux gens, aux professionnels, ce qu'ils ont à faire, et on a tendance parfois à interpréter ça comme une marque de désengagement, pas du tout, hein, c'est au contraire une marque d'adhésion profonde. Les élèves, alors, je crois qu'ils essaient de résoudre deux aspects qui traversent l'expérience juvénile des lycées et des collèges massifiés. Un, l'expression qui revient sans arrêt, c'est « j'ai compris que j'avais une chance et qu'il fallait que je la saisisse ». Ça, c'est absolument récurrent. Et ça va bien avec quelque chose qui est de l'ordre d'un schéma développemental des élèves d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'idée très individualiste. Hein, c'est des élèves qui ont été formés au projet, etc. Donc, ils ont dans l'idée que
chaque être humain, chaque jeune doit avoir la possibilité de se développer lui-même au maximum de ses capacités. Donc ça, ça rentre bien avec une des exceptions possibles de l'excellence, qui est de ne jamais bloquer, d'être dans une forme de mouvement permanent. Ça, c'est accepté par tous les élèves, qui voient toujours d'un très mauvais œil des blocages qui auraient pu venir de l'extérieur. Et dans les récits des élèves décrochés, ce qui est récurrent là aussi, c'est j'ai échoué parce que j'étais malade, parce que j'ai eu des profs indignes, parce que, etc., etc. Mais il y a toujours cette idée d'un obstacle qui est venu de l'extérieur entraver un développement qui est conçu comme un développement individuel. Voilà, j'ai dit parfois, les lycéens sont des adeptes de la mythes, les êtres sont des monades qui existent par elles-mêmes et qui se développent. Donc voilà. Mais l'autre aspect qui doit absolument tempérer le premier, c'est qu'il faut rester des pairs. La difficile équation des collégiens et des lycéens dans le monde aujourd'hui, c'est que nous sommes à la fois des concurrents, parce qu'à un moment donné, les places vont être limitées, à un moment donné, il va y avoir filiarisation, hiérarchisation, mais nous devons rester des frères, pour une bonne raison, c'est que quand on est scolarisé si longtemps que ça dans le même lieu, le fait d'apparaître trop différent serait absolument insupportable et briserait la possibilité de sociabilité. Donc, le grand intérêt, me semble-t-il, de la délocalisation des élèves dans des endroits qui ne sont pas les endroits de leur établissement d'origine, c'est qu'ils peuvent développer leur chance et la saisir ailleurs et rester des pairs, puisqu'ils ne sont plus en concurrence avec les copains qu'ils ont laissés ailleurs. Et on voit comment ils se livrent à des activités de retissage, le week-end en particulier, où ils retrouvent ceux avec qui ils ont grandi, où ils ont été élèves. La question qu'on se pose, c'est combien de temps ça va durer ? C'est-à-dire, jusqu'à quand les nouvelles parités tissées dans l'établissement vont effacer les anciennes, ça, on n'en sait rien. Voilà pourquoi le point de vue diachronique est tout à fait important. Est-ce qu'ils vont devenir les intellos ou les bouffons qui sont disqualifiés par les pairs lorsqu'ils sont sur place ? Là, on a des récits d'élèves qui me disent « Non, mes copains, c'est toujours mes copains, je joue au basket avec eux, je fais du judo, etc. dans le club comme d'habitude. » Ils sont même, d'une certaine manière, envieux, mais au bon sens du terme, voilà, ils sont contents pour moi, et je leur donne des conseils. Ils se transforment même, d'une certaine manière, en coach, qui vont dire, vous savez, vous avez tort. On a aussi des discours, j'insiste pas là-dessus, de la part de ces élèves, qui sont des discours de la désintoxication. À l'internat, on m'a désintoxiqué, je suis plus accroché à la télé, etc., etc. Non, j'ai droit à mon quart d'heure, oui, c'est ça. Alors, ces logiques de la reconstruction... Je les ordonne ici selon quatre aspects de la colonne de gauche qui nous paraissent constitutifs de ce que sont les savoirs et les apprentissages scolaires. Il y a des choses qui sont strictement scolaires, c'est-à-dire qu'à l'école, il y a un cadre de l'étude. On doit se comporter comme un élève, on lève le doigt, etc. Voilà. À l'école, il y a aussi des aspects qui sont plus strictement cognitifs. Et notamment, plus ça va, plus on doit devenir intellectuellement autonome. Et parfois, il y a des tensions entre l'aspect scolaire et l'aspect cognitif. Il faut bien voir la différence entre les deux. Il y a aussi une requalification. Il y a un aspect culturel, je passe aux requalifications après. C'est-à-dire que l'école, c'est quelque chose qui développe des valeurs de savoir, mais ces valeurs de savoir, elles sont aussi enchâssées dans des valeurs qui sont plus largement sociales et culturelles. Et enfin, être à l'école, c'est aussi... Les savoirs font membre, apprendre d'une certaine manière, c'est être membre d'une certaine communauté, avec cette idée que l'adhésion symbolique, elle se fait à la fois au monde scolaire et au monde des pairs qui la constituent en partie. Donc, les internats d'excellence, ils jouent sur tous ces aspects-là. Ils aménagent l'espace et du temps scolaire d'une manière spécifique. Ils accompagnent les élèves dans les tâches cognitives en visant l'autonomie. Il y a des activités périscolaires et dans certains endroits très nombreuses pour refaire du culturel. Et il y a aussi des activités d'intégration. Tout ça... peut constituer des requalifications pour des élèves qui ont été disqualifiés sur un aspect ou sur un autre. Et l'intérêt, nous semble-t-il, de cette matrice, c'est qu'en la faisant bouger, en la coefficientant, on voit des profils d'élèves qui se mettent à apparaître. Et il nous semble que là où l'internat est le plus intéressant, c'est là où il réussit à prendre en charge ces quatre éléments, ce qui n'est pas évident, et les discussions qu'il y a dans les ateliers nous montrent bien, je crois, qu'il y a des tensions dans la manière de prendre en compte les éléments, qu'elles soient liées à des difficultés temporaires, organisationnelles, de qualification des personnels qui ont à assumer ces différentes qualifications. Les quelques obstacles qui existent dans la manière de faire tenir ensemble ces quatre critères qui nous paraissent consubstantiels aux apprentissages, je n'en donne que trois ici. Le premier, je passe très vite parce qu'il a beaucoup, je crois, innervé les discussions d'hier, c'est sur la conception de l'excellence elle-même. Et la question du pilotage, qui me paraît importante, et qui est, est-ce qu'il y a un chef d'orchestre de tout ça, notamment entre l'établissement de base et l'établissement internat lorsqu'on n'est pas dans un système ex nihilo ? Est-ce que, par exemple, pour faire de la requalification culturelle, on ne va pas donner des surdoses de théâtre, d'opéra, de cinéma, de tout ce qu'on peut imaginer, et qui vont, avec la croyance que cette greffe-là peut prendre très vite, alors que chez les élèves qui ont eu la patine de l'ancienneté et des dispositions acquises et construites, ces choses-là ont pris des années et des années de conversations à table, de lecture de Télérama, d'écoute de France Inter, voilà, de tout ce qui fait de l'univers des enseignants et de ceux qui réussissent à l'école. Enfin, le dernier point qui me paraît aussi fondamental, c'est la manière dont on va tisser ou ne pas tisser la circulation du travail des élèves. Je pourrais développer ça, mais ce qui me paraît une cause d'échec important dans les apprentissages, c'est le fait qu'aujourd'hui, et de plus en plus, le travail réel des élèves est externalisé. Il n'a pas lieu dans le cœur de la classe, il n'a même pas lieu parfois dans le cœur de l'école. Et que l'internat a ici une mission et sans doute une difficulté, qui consiste à savoir comment il organise ça. Je crois qu'il y a des cas dans lesquels il ne l'organise pas, et dans lesquels il y a une pure et simple juxtaposition. D'autres dans lesquels, sans doute, il l'organise. Il me semble qu'il y a un point difficultueux qui a été évoqué notamment dans l'atelier dans lequel j'étais ce matin. Conclusion rapide de ça, c'est la question qui se pose, et pas simplement à la veille de l'été, c'est comment garder la forme. Ici, la forme scolaire, évidemment. Il y avait une publicité d'eau minérale il y a quelques années qui disait « la forme, pas les formes ». Nous, il nous semble que si, il faut la forme et les formes. C'est-à-dire la forme scolaire au sens où le monde scolaire est un monde à part, et définitivement à part. Dans le monde scolaire, quand on loupe un problème de robinet, on n'inonde pas l'appartement. Voilà. Quand les trains ne se croisent pas là, au bon moment, et ça ne fait pas une catastrophe ferroviaire. C'est un monde dans lequel on a droit aux essais, aux erreurs, et c'est ça qui caractérise en propre l'école, quel que soit le moment de l'histoire. En revanche, les formes scolaires, je crois que là, c'est quelque chose qui est plus circonstancié, avec une alternative et un risque de ces dispositifs. Est-ce qu'on est dans la rescolarisation ? Dans la resocialisation, pardon, est-ce qu'on voit bien les dérapages possibles au micro-lycée, je crois qu'on peut les voir aussi à l'internat d'excellence, ou est-ce qu'on est aussi dans la rescolarisation, et les deux missions ne sont pas, l'une ne découle pas ipso facto de l'autre. Et enfin, le dernier point, je crois bien évidemment, la question qui se pose qui est celle de l'essaimage, parce que si ce sont des laboratoires, alors nous devons être capables, nous devons nous rendre capables de savoir qu'est-ce qui est substantiel, qu'est-ce qui est important, sans rentrer dans de la décalcomanie ou du copier-coller, pour pouvoir le faire essaimer dans le système normal, et c'est tout l'intérêt de ces affaires-là. Le risque serait évidemment d'être une vitrine, hein, conjoncturelle, qui a un effet de mode. Pour dire mon sentiment sur la question de l'essaimage, je crois que la véritable boussole pour faire face aux effets de mode et aux tentatives de vitrine politique, c'est de s'intéresser aux apprentissages des élèves.